êtes avec SBS French.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Et aujourd'hui, c'est un peu spécial parce que c'est une idée d'épisode qui nous a été soufflée par l'un d'entre vous, en l'occurrence l'une d'entre vous, donc merci beaucoup à elle, une auditrice fidèle apparemment, et je pense que cet épisode va intéresser beaucoup de monde parce que on va parler d'un programme qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, un programme à travers lequel quasiment, je suppose, la plupart d'entre vous qui nous écoutez êtes venus pour la première fois en Australie, puisqu'on va parler du fameux visa vacances-travail. Alors, comme d'habitude, j'ai le plaisir pour discuter de tout ça avec Romain Fati, historien à l'Australian National University. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory et bonjour chers auditeurs et auditrices.
Alors, parmi les auditeurs de SBS French, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup, mais partons de l'hypothèse qu'il y a des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est, le programme vacances-travail, le fameux PVT. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce programme, sur ce titre de séjour qui combine a priori deux choses totalement opposées, les vacances et le travail?
Alors, le programme vacances-travail, c'est une classe de visa qui n'est pas exclusive à l'Australie. Alors, de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'une sorte d'intermédiaire entre un visa touristique simple, c'est-à-dire vous allez, je ne sais pas moi, passer 3 semaines en Turquie dans un resort, très bien, vous prenez un visa touriste, voilà. Ou alors vous voulez aller travailler aux États-Unis, auquel cas il vous faut un rendez-vous à l'ambassade et puis beaucoup de papiers, une justification solide et une promesse d'embauche de l'autre côté. Eh bien, vous avez un intermédiaire dans certains pays, dont l'Australie, qui est le visa vacances-travail, qui vous permet de venir en Australie au moins pendant un an. Alors, il y a différentes catégories avec différents pays, mais mettons que l'objet principal, enfin le plus commun, soit un visa d'un an, où vous pouvez venir en Australie pendant un an, y résider légalement, y passer des vacances et entre vos vacances, travailler dans certaines industries. Donc, ça vous permet en réalité de financer votre voyage et au lieu de partir 3 semaines au bout du monde, ce qui fait quand même très loin et un bilan carbone pas tout à fait positif, enfin, voire très négatif, ça vous permet d'allonger votre séjour en travaillant si vous le souhaitez. Toutes les personnes qui utilisent le visa vacances-travail ne travaillent pas nécessairement. C'est un visa un peu intermédiaire qui est réservé à une certaine classe de personnes entre 18 et 30 ans, exceptionnellement 35 ans pour quelques nationaux de quelques rares nationalités. Et une des conditions que j'ai apprises en faisant ces recherches pour aujourd'hui, c'est que vous ne pouvez pas avoir d'enfants. Donc voilà, c'est réservé à généralement des personnes jeunes, pendant ou après leurs études, qui veulent faire un voyage long et découvrir un autre pays, tout en pouvant financer ce voyage.
Alors, on va revenir aux origines de ce programme. Je le disais en introduction, il a fêté ses 50 ans en 2025. Et dans d'autres épisodes de notre série, on a parlé longuement de la politique migratoire australienne au fil de son histoire, qui a en gros évolué en fonction de deux facteurs, ses besoins importants de main-d'œuvre et le niveau, on va dire, de racisme au niveau gouvernemental. Le programme vacances-travail, donc 50 ans, 2025 moins 50, c'est 1975. Est-ce que vous pouvez nous resituer un petit peu dans le contexte de l'époque? Et ce visa, donc, qui mêle à la fois tourisme et possibilité de travailler, est-ce que, comme les autres politiques migratoires mises en place par l'Australie depuis ses origines, est-ce qu'il vise à faire tourner plus rapidement l'économie australienne?
Alors, initialement, pas tellement. Je vais vous surprendre. En réalité, dans les années 70, quand ce visa a été pensé, il s'agissait de répondre à plusieurs enjeux, mais celui qui a été annoncé officiellement et qui fait pas office de propagande, hein, c'était réellement pensé comme ça, c'était d'augmenter les échanges culturels entre les habitants de la planète, de sorte à faire découvrir l'Australie et à rapprocher les peuples. Ça fait un peu penser au programme Erasmus, si vous voulez. Sauf que là, il s'agit pas d'études, mais d'un visa vacances-travail. Donc, à l'origine du programme, c'est pensé dans le cadre d'une Australie qui s'ouvre. Vous savez, quand on a fait ces épisodes sur l'immigration, 75, c'est vraiment la fin, la toute fin enterrée de l'Australie blanche. Donc, le système des visas a été entièrement repensé et renouvelé. Et en parallèle de l'immigration choisie qui s'ouvre en réalité à de nombreuses nationalités, l'Australie est aussi un moment où elle commence réellement à développer son industrie du tourisme et par ailleurs elle s'ouvre sur l'Asie-Pacifique. Et donc il y a un réel intérêt de la part des gouvernements Whitlam, travailliste, puis Fraser, conservateur, qui le remplace en 75, un réel intérêt à ouvrir le pays. Et une manière d'ouvrir un pays, c'est à la fois de faire venir des jeunes dans ce pays, ce qui expose les Australiens à d'autres cultures, d'autres identités, mais aussi ces jeunes vont peut-être finalement y rester plus longtemps, y travailler plus longtemps, ou rapporter certaines idées d'Australie chez eux. Enfin voilà, c'est du brassage culturel. Et à l'origine, au tout début au moins, l'ambition principale, c'est l'échange culturel, c'est la découverte du pays, et c'est autoriser des personnes à passer un séjour long dans les années 70, 80. On s'imagine très bien qu'un billet d'avion vers l'Australie, déjà, ça prend beaucoup plus de temps, mais ceci beaucoup plus coûteux. Et donc, il y a un intérêt à ce que ces jeunes-là puissent rester plus longtemps. Ça, c'est le début de la politique.
Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Donc, à ce stade, il y a la possibilité de travailler, mais vous expliquez, en fait, c'est lié au fait qu'on permet à ces jeunes qui font la démarche coûteuse et difficile de venir en Australie dans les années 70-80, de rester sur une longue période au cours de laquelle, à moins d'être vraiment l'héritier d'une grande fortune, à un moment ou à un autre, il va falloir travailler un petit peu pour financer des vacances très prolongées.
Exactement. Et ça, c'est important de le souligner, Grégory. Ça s'inscrit aussi dans un mouvement global. Je vous ai dit que l'Australie n'était pas le seul à avoir ce type de visa. Là, on voit vraiment, vous savez, des personnes un peu privilégiées, souvent de pays européens, qui pouvaient se permettre de voyager une année, 2 années dans les années 70, 80, de découvrir le monde. Donc on s'inscrit dans une espèce de tradition de grand tour aussi, où il s'agissait de mettre l'Australie sur la carte de ce grand tour, parmi des destinations qui devenaient plus accessibles parce que le monde se rétrécissait avec la multiplication des avions à réacteurs.
On va s'arrêter là pour aujourd'hui avec donc cette première partie d'un long épisode consacré à l'histoire du visa vacances-travail en Australie. Je vous propose de nous retrouver dans quelques jours pour la suite. On s'intéressera cette fois à un tournant intervenu dans le cadre de ce programme en Australie, puisqu'il n'a plus été simplement considéré comme un outil de promotion culturelle, mais comme un moyen, eh bien, de remplir certains des besoins en main-d'œuvre en Australie, en particulier dans les zones rurales. À très vite.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
A new SBS music station is coming.
SBS Pop Euro.
Filled with Eurovision hits non-stop.
You want more? Tune in from the 1st of May.
On DAB Radio, online.
The SBS Audio app.
And SBS On Demand.